de l'énergie en studio, c'est le fun. Pascal qui est en forme aujourd'hui, Louis Gauthier qui est au bout du fil, il est en direct. Ouais, t'es un petit peu, Louis, je suis en train de régler mes problèmes de Python. C'est compliqué cette technologie-là. T'es en Caroline du Nord présentement?
Oui, à West Jefferson, en plein dans le cœur où l'ouragan Hélène a frappé vraiment lourdement la Caroline du Nord. Des 102 décès et des 7 disparus, je te dirais que c'est pas loin de 90 % de ce nombre-là qui a touché la région où je me trouve, le comté d'Allegheny.
Ouais, c'est-tu bien magané?
Écoute, ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans une région montagneuse, vallonneuse. Il y a beaucoup de petites rivières, beaucoup de routes qui longe des rivières. Les rivières ont débordé, il y a eu des glissements de terrain, il y a des arbres partout tombés. Là, j'en ai ici à côté de moi. Ça l'a frappé vraiment, vraiment partout là, dans la région. Puis ce qui est surprenant, c'est que ça l'a pogné directement dans des creux de montagne.
Okay.
Puis ça a comme bloqué là, ça a créé beaucoup de dommages. Mais ce qui me surprend contre tout, c'est que les gens sont avenants, sont proches. Écoute, on m'a offert tantôt, écoute, ça va être long, là, si tu as besoin d'aller au Walmart, prends mon auto, puis tout ça. Les gens, là, viennent au-devant des autres parce que ce que FEMA a donné, là, le 750 $ par mois imposable aux gens, ça va aider des gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées pour les désastres naturels comme Hélène a provoqué ici. Donc, ça vient les aider. Mais le bas blesse parce que c'est un montant imposable. Puis, comme je vous parlais, voilà un mois, que l'élection américaine allait se régler sur des questions régionales et même locales, bien, c'est le cas ici. Parce qu'on est dans un État qui était connu comme un État pivot, un swing state, un battleground qu'on appelle. Et ça a vraiment parlé ici, la Caroline du Nord, puis c'est le ton qui a été donné. Comme j'ai vu au Michigan, comme j'ai vu en Californie, en Oregon, où c'est très démocrate, puis que le taux de participation en faveur des démocrates a même baissé avec Kamala Harris. Ça, tu vois que c'était des enjeux régionaux et même locaux qui ont décidé de cette élection-là.
Ouais. Les sujets actuellement, là, quand tu écoutes la radio aux États-Unis, c'est-tu encore les présidentielles ou sont rapidement passés à d'autres choses? Parce qu'à un moment donné, il faut que les États-Unis fonctionnent.
Bien, écoute, on est content. Ce qu'on me dit, parce que j'ai parlé à beaucoup de personnes, c'est que les médias, ils sont pour beaucoup dans les 4 dernières années, puis ils n'ont pas embarqué dans ce bassin-là. Puis de parler contre Donald Trump, les gens de mon âge ici disent, écoute, c'est un homme d'affaires, on va le laisser travailler, puis il a l'expérience d'un premier mandat, il ne connaîtra pas les mêmes erreurs s'il en avait connu, on va le laisser travailler, mais qu'on arrête. Puis on est très content en plus de toutes les nominations qu'il a faites jusqu'à maintenant. La rencontre de la Maison-Blanche qui vient de se terminer entre Joe Biden et Donald Trump à la Maison-Blanche aujourd'hui, ça augure très, très bien. On promet d'une transition saine, douce, sans problème. Donc, ça envoie un message très, très clair. John Thune vient d'être nommé le leader au Sénat qui remplace, remplace McCartney qui était là. On est à 2 sièges d'avoir la majorité à la Chambre des représentants. Donc, il va avoir 2 ans pour mettre les politiques en place, puis ça bouge beaucoup. On a vu, là, tu as Elon Musk, puis Ravik Raraswani qui vont être dans le nouveau ministère de la réorganisation gouvernementale. Ça risque de brasser assez rapidement. On voit qu'il met ses pions très rapidement en place, puis les Américains sont d'accord avec ça.
Ouais. Hey, je me pose une question, peut-être que Pascal pourrait nous répondre aussi, nous donner son opinion là-dessus, mais Elon Musk collé sur le gouvernement, faut-tu qu'il s'éloigne de ses propres entreprises? Parce que avec Elon Musk et Twitter, ça a bien fonctionné pour Trump, on va se le dire, là.
Oui. Moi, je maintiens qu'il va être là encore pour... il va faire 1 an. Il va faire 1 an. Bon, est-ce qu'il est loin? Il n'y a pas l'obligation de Donald Trump de mettre ses obligations de chef d'entreprise, je te dirais, sous un genre de parapluie administratif, comme Donald Trump a fait avec ses enfants, concernant Trump international. Il n'a plus de droit de regard là-dessus, il a laissé ça à ses enfants. Dans le cas d'un gars comme Elon Musk, ça ne sera pas nécessaire. Puis, ce qu'on entend parler, c'est qu'il ne sera pas là pour 4 ans.
Moi, Louis, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme Elon Musk, actuellement aux États-Unis, c'est le propriétaire du plus grand journal possible.
Ouais. Avec une liberté d'expression qui n'est même pas contrôlée pour beaucoup. Puis, là où je trouve qu'il... Ben, en fait, il est passé par la bonne voie pour ne pas avoir de restrictions. Le gars est brillant.
Oui, il est brillant.
Puis, est-ce qu'il vraiment il croit en Donald Trump? On ne le saura jamais. Est-ce qu'il croit en les avantages que Donald Trump peut lui apporter? Assurément. Puis je pense qu'il est allé avec le fait d'avoir analysé le tout puis dire, ben moi, c'est le mercantile qui m'intéresse le plus là-dedans.
Mais si j'étais Trump, je dirais, OK, Elon, tu m'as beaucoup aidé pendant mes présidentielles, mais là, tu vas venir travailler avec moi, mais tu vas te détacher un peu de Twitter. Je veux pas entendre parler de moi sur Twitter à tous les jours avec des algorithmes trafiqués un peu.
Mais parler de toi de quelle manière? Parce que c'est quand même museler quelque chose, quand même un contrôle d'information.
Non, mais je ne voudrais pas qu'un homme d'affaires comme Elon Musk fasse la promotion d'un président des États-Unis puis qu'il soit pas factuel. Tu sais, j'aimerais ça que cet individu-là, puis je sais que c'est dans l'utopie, mais j'aimerais ça qu'il soit juste. C'est-tu une bonne décision du gouvernement ou c'est une mauvaise décision du gouvernement? Tu sais, ne pas rien trafiquer pour que le gouvernement paraisse mieux qu'il ne l'est en réalité. Là.
Bien, moi, je pense qu'on doit laisser la chance aux coureurs parce que quand tu parles aux Américains, là, ils sont conscients de ce qui va arriver, mais c'est ce qu'on reproche au gouvernement de Joe Biden dans les 4 dernières années d'avoir utilisé à bon escient l'ensemble des médias. J'ai parlé ce matin à un jeune, Kevin Elliott, qui a 32 ans, qui fait partie de la génération Z, qu'on dit que c'est eux qui ont participé énormément à l'élection cette année. Lui, il fait partie d'une entreprise familiale. Il possède 18 hectares de terres de conifères ici en Caroline du Nord. Ils ont été touchés, ils embauchent énormément de travailleurs étrangers, des Mexicains, des Guatémaltèques et tout ça. Et vous allez voir, là, on va l'écouter, puis après ça, je vais revenir avec la traduction de ce qu'il dit.
Mais
Kevin Elliott.
Tu lui poses quelle question? Il répond à quelle question, Louis?
La question que je lui demande, est-ce que l'enjeu local de l'ouragan a fait pencher la balance dans un état pivot comme la Caroline du Nord? Puis on écoute sa réponse.
I think after what we've seen and how the government handled everything, it's just, I think with North Carolina being a swing state, a battleground state, it really said a lot and it really helped open up a lot of people's eyes, I believe, and just ready for a change, you know, ready for some help.
OK.
Alors, tu vois, ce qui est important, ce qu'il vient de dire, c'est que au niveau de l'enjeu local de l'ouragan, on a vu à la vitesse que le gouvernement agissait. Ça a juste donné le dernier clou dans le cercueil de la confiance qu'on avait envers le gouvernement parce que ça ne bougeait pas. Puis, ce qu'il venait de dire un peu avant, là, parce qu'on a pris ce bout-là d'entrevue, mais on l'a sur le cœur parce qu'en même temps, il s'est donné une grosse enveloppe budgétaire auprès de l'Ukraine pour dans son combat contre la Russie. Puis en même temps, bien, on annonçait qu'on donnait 750 $ par mois imposable à ceux qui en avaient besoin. Donc, quand la question que je vais poser à la fin, mais alors expliquez-moi donc pourquoi en 2016, vous avez élu Donald Trump parce que vous étiez tanné de faire rire de vous autres dans les années précédentes, que 4 ans plus tard, vous avez élu un individu que vous sachiez vous-même, les Américains, qui avait des problèmes cognitifs. Et là, vous revenez avec un score électoral qui n'a pas été vu depuis 20 ans. Puis, alors, expliquez-moi donc pourquoi vous avez fait ce changement-là. Puis, on l'écoute encore une fois, Kevin.
I think it's probably one of the best comeback victories in American history. When Biden was elected back in 2019, I feel like the media played a big part in brainwashing the U.S. people, the American people, you know, promising us all these good things and just not fulfilling what he said he would. And once again, it just showed us, the American people, that he really wasn't for the American people, mainly about himself, it seems.
Ils se sont fait un peu brainwasher par les médias.
Bien, c'est ce que tantôt, là, vous parliez tantôt de Elon Musk avec son compte X, mais on peut parler de Donald Trump avec son True Social Media. Alors, est-ce qu'on va s'en servir pour faire des genres de communiqués de presse? Ah, bien, on va s'en servir pour faire de la propagande. Moi, je pense qu'on va s'en servir plus pour faire des genres de communiqués de presse, des annonces, comme c'est fait là, depuis le début de la semaine, les annonces à l'intérieur même du cabinet Trump à venir. On va se servir de ça. Mais on reprochait d'avoir fait un genre de brainwash médiatique pendant 4 ans de temps, puis que les promesses ne sont pas venues. Donc, la chance est au coureur. C'est de savoir si l'équipe de Trump pourra bien s'en servir. Puis, c'est la confiance qu'on a mis, je te dirais, avec des nombres, pas besoin de dire, là, les Américains ne sont pas surpris du score de l'élection. Ça, on le voit tout de suite. Puis, on donne la chance aux coureurs. C'est ce que j'ai remarqué. Je parle avec tout le monde là, depuis 3 jours et on dit la même chose. Où on est surpris, c'est de voir à quel point l'élection de Donald Trump a touché la planète entière. De voir comment on en parle au Canada, de voir comment on en a parlé ailleurs, ça veut dire que les Américains ont retrouvé l'importance qu'ils avaient sur l'échiquier politique mondial, puis ils retrouvent leur fierté. Mais je peux t'annoncer qu'ils vont passer un Moses de beau Thanksgiving dans 2 semaines.
Je ne sais pas si moi j'étais si surprise, parce qu'il y a quand même tout ce qui est échange, qui est valeur commerciale, puis qui est en libre-échange, on pourrait dire, mettons, qui était déjà au quotidien un enjeu. C'est juste qu'on a remonté à la surface ces enjeux-là parce qu'il y avait 2 politiques qui s'affrontaient, mais en même temps, il y a beaucoup de protectionnistes dans les 2 parties.
Hey, Pascal, je vais te rappeler qu'à l'époque de la pandémie, là, j'ai passé même pas 8 semaines sur 52 semaines à ma résidence de Québec, tellement que j'étais aux États-Unis, que j'ai travaillé, j'ai fait de l'argent comme ça se peut pas dans cette période-là. Puis, vous le voyez, là, j'ai été 3-4 jours la semaine passée à Québec, ça faisait un mois que j'étais pas là. Dans le transport, on ne verra pas ce changement-là, que ce soit tout type de transport, on ne le verra pas. Dans nos échanges, présentement, là, on descend des arbres de Noël de la Beauce puis de l'Estrie ici, puis on remonte des échanges des arbres de Noël de la Caroline du Nord au Canada. Si ce n'est pas le principe même du libre-échange, là, expliquez-moi c'est quoi. Là.
Non, ce que je veux dire, c'est que l'impact était encore là des États-Unis. Il n'y avait pas nécessairement diminué parce que l'import-export était super important puis ils vont le protéger corps et âme. C'est fondamental pour les États-Unis. Tu sais.
Bien, c'est fondamental, mais l'échange est là. Puis moi, je peux te dire une chose, que depuis une semaine, là, tous les indices boursiers sont dans le vert. Si tout le monde a des placements à quelque part, là, puis que vous n'avez pas vu leur rendement depuis une semaine... Là,
changer de planificateur financier.
Ben, c'est ça, parce que ça a bougé de partout. Ouais.
Mais tu sais, il peut peut-être y avoir des inquiétudes dans le secteur du bois d'œuvre. Le bois, c'est quand même une belle ressource qu'on a.
Mais la gestion de l'offre, le bois d'œuvre, il y a un paquet de choses. Mais Donald Trump, ça a tout le temps été le gars qui est arrivé avec son poing sur la terre et dit « Regarde, moi, je veux ça. » Mais il va offrir à la hausse pour négocier un niveau plus bas. Puis tout le monde va y trouver au change. Tout le monde va gagner au change. Parce que veux pas, on est les 2 plus grands voisins qu'il n'y a pas dans le monde parce qu'on partage la plus grande frontière au monde. On est des cousins de territoire et ça sera toujours respecté. Ça a toujours été respecté dans l'histoire des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis depuis près de 250 ans. Ça ne changera pas aujourd'hui.
Qui vivra verra, Louis Gauthier.
Je serai là pour surveiller et vous apporter la nouvelle au goût du jour, les amis.
Salut, Louis.
Bonne journée, tout le monde.
Merci. Louis Gauthier, chroniqueur international. Je veux juste revenir sur la discussion qu'on avait, là, parce que, bon, que les États-Unis aient mis au pouvoir Donald Trump, moi, bon, c'est fait, c'est le choix des Américains, la présidentielle est là, blablabla. Bla, bla. Mais de voir qu'un gars qui l'a aidé par son média, Elon Musk, qui va être nommé dans son équipe, je trouve ça inquiétant s'il continue de faire la même affaire puis promouvoir l'administration de Donald Trump, la mettre peut-être plus belle qu'elle ne l'est en réalité. Puis je suis comme ça pour les présidentielles américaines, mais je suis comme ça aussi au Québec. T'sais. Si j'avais quelqu'un qui sortait dans les médias, un propriétaire, mettons un Pierre-Carl Péladeau, qui militait à tous les jours, il le fait peut-être on the side, là, mais qui militait à tous les jours pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis du jour au lendemain, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est élu, puis là, ben, Pierre-Carl Péladeau est nommé dans son équipe, puis il continue d'avoir les journaux de Québécois, les gens seraient outrés, parce que... puis avec raison.
Je trouve ça très, très difficile, puis un des premiers commentaires que j'ai dit, je sais pas si tu te souviens, dans la prise de parole de Donald Trump, à moi que j'avais juste mis sur Instagram, je me souviens pas, mais j'avais dit... Quand il y a eu le discours là, gagnant de Trump, là, on a vu tous ses amis, mettons, en enfer monter sa scène. Puis je disais, mais c'est rendu un cirque d'entrepreneurs, un cirque d'hommes d'affaires. C'est pas nécessairement de la politique. Puis souvent, tu as besoin d'excellents hommes d'affaires dans la politique. C'est pas ça que je veux avancer. Ce que j'avance, c'est que c'est des gens aussi qui le maîtrisent pas. Puis la, le, tout ce qui est administratif au niveau de la politique, la réussite d'un pays, ils vont apprendre à tenter avec une équipe, je comprends. Mais le hic là-dedans, c'est qu'ils vont vouloir aussi, pour eux, parce que c'est des personnalités avec des traits narcissiques puis qui sont là pour leurs propres avantages. Puis on dit souvent que ce mandat-là de Donald Trump, c'est un mandat réparateur pour lui. Il veut refaire son image, il veut se venger sur certaines choses, en parallèle avec d'autres choses, mais ça, c'est important quand même de ne pas l'évacuer. Puis c'est un peu pour leurs propres avantages économiques et de business. Ces gens-là ne travaillent pas nécessairement pour vous, mesdames et messieurs. C'est des gens qui travaillent pour eux, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à monter une grosse, grosse business. Mais la problématique là-dedans, c'est effectivement de quelle manière ils vont le faire, puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement l'administration politique. Ils vont le faire avec ce qu'ils détiennent en termes de président d'entreprise, puis les avantages qu'ils ont en conséquence. Puis il y a une forme de manipulation qui pourrait être exercée. Ouais.
Mais tu sais, ça, cette portion-là, on la contrôle pas vraiment. Moi, c'est plus la portion média, là, tu sais, d'influencer le public. À partir du moment
c'est
où...
la même chose que je dis.
Oui, mais je veux dire, un homme d'affaires qui va s'enrichir sur le dos avec le gouvernement, tu sais, ça n'a pas un impact sur le Québec entier. T'sais.
Non, mais pour y arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer médiatiquement.
Un média, tu sais, là, ils pourront pas le faire avec Donald Trump, mais ils pourraient faire élire un genre de Donald Trump assez facilement.
Pourquoi?
En ne faisant voir juste que le beau de son administration.
Pour leur avantage politique et économique, on parle la même chose en ce moment.
Ouais, je parle plus pour les médias. Je parlais pas des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui sont autour de Donald Trump.
Ben, Elon Musk en est un, c'est de lui que tu parlais.
Oui, mais il est propriétaire d'un média. Ouais. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Pierre-Carl Péladeau, parce que le parallèle peut se faire en tant qu'homme d'affaires qui sont propriétaires d'un média. C'est extrêmement puissant quand tu es propriétaire d'un média.
Tu n'as pas entendu, mais oui, on parle la même chose.
Power Corporation, ils se sont, avec la presse, se sont longtemps collés sur les libéraux. On le savait.
Ouais. Normalement, ça, c'est sanctionné. Fait que, d'où tout mon commentaire que je viens de faire.
Mais tu penses-tu qu'Elon Musk va être sanctionné? C'est l'homme le plus puissant de la planète actuellement. 1h19, on s'en va à l'heure musique. On va aller avec Linkin Park, What I've Done sur Boulevard.